La rubrique « Il n'enseigne plus comme avant » va vous sembler, chères auditrices et auditeurs des souris et des lettres, confirmer l'impression que j'ai tirée du précédent échange. Anne et Marie veulent clairement balayer la vieille distinction entre langue vivante et langue morte. Pour elles, faire écouter le latin et le grec, faire parler ces langues, conduit les élèves à mieux les lire. Écoutons d'abord le témoignage d'élèves.
J'aime bien écouter le latin, je comprends mieux car il y a des sous-titres et ça m'aide beaucoup.
En cours de latin, on a écouté des textes. Je pense que ça peut nous aider à comprendre avec les images et le fait que ce soit articulé pour bien comprendre l'articulation et l'accent de la langue.
Je trouve ça vraiment bien les textes qu'on écoute en cours. Ça facilite la compréhension et ça permet vraiment d'améliorer sa prononciation.
Selon ces témoignages, il semblerait que passer par l'oralisation permettent aux élèves de se familiariser avec les langues anciennes qu'ils étudient. Anne, peux-tu nous expliquer comment on peut exploiter ces techniques propres aux langues vivantes au départ ?
Bien, comme l'expliquent mes élèves sur cet enregistrement, depuis quelques années, je commence chaque séquence par un texte en langue latine en lien avec cette séquence. Alors, il ne s'agit pas d'un texte authentique, mais d'un texte qui provient d'un manuel particulier, celui d'Ansorberg, Lingua Latina Perse Illustrata. Alors cette idée, elle m'est venue parce que les élèves dès la 5e sont très volontaires pour lire à voix haute et ils veulent à tout prix comprendre dans le détail les textes qu'ils lisent, ce que ne permettait pas la lecture des textes authentiques, ce qui générait chez certains d'entre eux une réelle frustration. Et ils avaient l'impression de ne pas progresser assez vite dans leur compréhension des textes latins. Donc en début de séquence, je leur donne à voir et à entendre une vidéo extraite de cette méthode Orberg. Sur la vidéo, on a une ou plusieurs illustrations, le texte latin, donc à lire sous la forme de sous-titres, et le texte lu à voix haute, lentement, avec articulation et intonation.
Et alors, quels sont les outils de la méthode Orberg qui semblent bien éloignés des pratiques d'enseignement traditionnelles ?
Alors, les outils, c'est ce que je disais, c'est une vidéo avec le texte en dessous. Et c'est surtout les avantages qui sont intéressants. D'abord parce que les élèves entendent du latin, comme ils entendent de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol en cours de langue vivante. Et donc, ils n'appréhendent pas le latin comme un cours étrange, un peu à part d'une langue qu'on ne parle pas, voire que l'on n'a jamais parlé. Alors, en tout début de cinquième, c'est un formidable outil pour leur permettre d'apprendre la prononciation du latin et sa prosodie, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons qu'une heure de latin par semaine en cinquième maintenant, et qu'un des attendus de fin de cycle pour les élèves, c'est de savoir lire oralement un texte latin. Et une heure, c'est peu pour les entraîner dès le début à lire avec une prononciation correcte, surtout quand on en a 28. Entendre du latin leur permet de mieux mémoriser la prononciation et de mieux prononcer eux-mêmes.
Et alors, sur quoi portent les textes proposés ?
Alors, le deuxième volume, ce sont des réécritures des textes de Tite Live et Virgile. Quant au texte du premier volume, Familia Romana, ils évoquent la vie quotidienne à Rome à travers la vie d'une famille, et c'est présenté sous forme de petites scénettes. Donc les textes des leçons proposés au format PDF et au format vidéo sont immédiatement intelligibles par les élèves car ils sont composés de telle sorte que le sens des mots et des phrases soit évident grâce aux illustrations. En commençant chaque séquence par un de ces textes, je peux poser les mots-clés en latin, et aussi la problématique de la séquence grâce à un texte simple. Alors par exemple, j'ai travaillé tout récemment en quatrième une séquence sur l'esclavage à Rome. Je leur ai donné à lire et à entendre le chapitre du manuel intitulé « Dominus et servi ». Alors cette leçon, elle est rigolote parce qu'elle se présente sous la forme d'une petite pièce de théâtre en trois scènes où le Dominus réalise qu'on lui a dérobé de l'argent et interroge ses esclaves pour savoir qui l'a volé. Donc avant de faire entendre et de voir la petite pièce aux élèves, je leur pose une seule question. Que se passe-t-il dans ce que vous allez voir ? Et au terme de la vidéo, ils répondent d'abord en français. Nous posons les mots-clés au tableau et puis nous faisons un petit résumé sous la forme cette fois-ci de courtes phrases latines qui réutilisent le vocabulaire du texte qu'on a écrit au tableau. Et une fois qu'on a fait cela, donc je leur pose ma dernière question. Que nous dit ce texte des rapports entre maître et esclave à Rome ? Et c'est ainsi que nous formulons ensemble la problématique de séquence. Et cette séance inaugurale va leur donner accès plus facilement aux bases pour lire et comprendre les textes authentiques qui sont donc étudiés par la suite dans la séquence, que ce soit celui de Varron, de Cicéron, de Plaute ou de Pline. Et j'ai remarqué qu'ils progressaient vraiment plus rapidement dans l'acquisition du vocabulaire, notamment les mots-outils, et dans l'appréhension de la structure de la langue. Et surtout, donc, comprendre un texte rapidement est très, très stimulant pour eux.
Donc, finalement, pour faire accéder les élèves au plaisir de lire, l'oralisation constitue un outil très efficace. Et tu t'inspires beaucoup de ce que proposent nos collègues de langue vivante pour travailler ce qu'ils appellent la compréhension orale. Je me tourne une nouvelle fois vers Marie, qui, je le rappelle, enseigne en lycée. Utilises-tu ce type de technique pour imprégner les élèves de langue latine ?
J'utilise exactement le même genre de technique, mais pour travailler l'expression orale. En effet, très souvent, je demande aux élèves d'enregistrer une lecture expressive des textes que nous avons étudiés en classe. C'est un exercice exigeant, mais qui permet aux élèves de s'auto-évaluer. Pour parvenir à proposer une lecture expressive qui rende compte des enjeux du texte et qui soit respectueuse de la syntaxe, ils doivent en effet bien en maîtriser la construction. Et c'est finalement un bon outil de révision pour préparer l'oral du baccalauréat. Je leur demande généralement de s'enregistrer une fois le texte traduit et commenté dans le détail. Les élèves se prêtent toujours facilement à ce type d'exercice et en perçoivent l'intérêt. Ils préparent leur lecture chez eux, à leur rythme, comme ils réviseraient les traductions et analyses menées en classe. Mais les élèves en témoignent, c'est vraiment un moyen efficace de s'approprier le texte.
Tu as d'ailleurs demandé à l'un de tes élèves de témoigner et de mesurer l'impact de cette pratique sur ses apprentissages. Nous l'écoutons.
Bonjour, je suis Alexandre Benoît, élève de terminale au lycée d'Urzé en option latin. Notre professeur de latin nous a proposé comme exercice de préparer et d'effectuer la lecture expressive d'un texte de l'histoire naturelle de Pline. Je vois en cet exercice plusieurs intérêts pour la compréhension du texte. En effet, cela nous permet de revoir sa traduction afin de bien pouvoir distinguer les groupes de mots et de rendre la lecture plus fluide et plus vivante. Cet exercice nous aide donc à la compréhension grammaticale du texte de Pline l'Ancien. De plus, une lecture expressive du texte peut nous aider à en faire son commentaire.
Alors, comme l'explique Alexandre, cet exercice les aide à revoir et mémoriser la traduction du texte. Mais lire, c'est surtout interpréter, ou plutôt rendre compte d'une interprétation. Le ton choisi, les mots que les élèves décideront de mettre en valeur dans leur lecture sont autant d'indices d'un commentaire fin et personnel du texte. Généralement d'ailleurs, les notes que les candidats obtiennent pour ce type d'exercice sont en harmonie avec celles qu'ils reçoivent dans un exercice plus traditionnel de restitution de traduction ou de commentaire à l'écrit. Et les coquilles, les éventuelles hésitations qui transparaissent dans leurs enregistrements permettent de pointer du doigt les passages du texte étudié qui ont été mal compris.
Et tu ne pratiques cet exercice qu'en terminale ?
Pas du tout, je le propose à tous les niveaux, aussi bien en latin qu'en grec. En seconde, par exemple, les latinistes en début d'année enregistrent des brèves d'actualité, en s'efforçant de respecter les groupes de mots, la ponctuation, et en essayant de transcrire une émotion précise, en singeant parfois les tics des journalistes actuels pour exprimer la surprise, l'étonnement, la révolte, selon l'information présentée.
Et en grec ?
En première, par exemple, à l'occasion d'une séquence consacrée à la poésie érotique, je demande aux élèves d'enregistrer leur lecture. Cela leur permet de mieux percevoir les enjeux et les jeux sur les sonorités, les anaphores et plus généralement la musicalité des textes poétiques. Ils ont en effet tendance à l'oublier lorsqu'ils se lancent dans un exercice de traduction plus scolaire.
Anne et Marie ont toutes deux une préoccupation très sérieuse. Il s'agit pour l'une d'initier ses jeunes élèves à une langue de l'Antiquité de telle façon qu'ils adhèrent à ce nouvel apprentissage, tout en assimilant les fondements essentiels de celui-ci. Pour l'autre, il s'agit d'approfondir les connaissances et de renforcer les compétences, sans perdre de vue l'échéance du baccalauréat. Et comment vont-elles pouvoir remplir au mieux ces objectifs ambitieux ? En faisant goûter à leurs élèves le plaisir du verbe, la gourmandise d'une parole bien prononcée, dans une intonation qui en respecte le sens et l'essence. À ce compte, qui dira qu'apprendre en LCA est un processus rébarbatif ?